yes. By the end of the night, enter bathroom, fresh up.
Les gens vont encore dire que je... Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez nuit? Ton frère se bat pour réussir, toi tu es là seulement pour lui souhaiter le pire.
Pour lui souhaiter les coups.
Tous les jours il a fait ça. Celui-là c'est même qui? Tu n'as pas ta vie mon frère. Je dis pourquoi toi ça te criche?
Pourquoi t'es
comme un garçon? Tel c'est un bootman. Y'a quoi non? L'ombudsman a construit, tout le monde a vu. Toi fais ta part en voix non?
Radio de la paix, il est 18h. Le journal de 18h, Marthe Cacou.
Nous sommes le mercredi 3 mai 2023. Dans les médias, voici les faits marquants. Plus de 1 000 milliards de francs CFA ont été décaissés pour l'exécution des projets C2D durant ces deux dernières années. C'est ce qui ressort entre autres du Conseil des ministres de ce mercredi, qui s'est aussi penché sur d'autres mesures. Nous y reviendrons dans quelques instants avec le porte-parole du gouvernement ivoirien. Lancement aujourd'hui à Abidjan de la 4e semaine nationale de sécurité routière, une initiative du gouvernement marqué par une sensibilisation de proximité des usagers de la route à plus de suivisme, surtout en cette période de grande saison des pluies. Les échos du point de presse dans quelques minutes. Présidentielle du 4 juin prochain en Sierra Leone, la voie se dégage pour le principal candidat de l'opposition. Bonsoir à tous. Plusieurs mesures ont été prises ou étudiées par le gouvernement ivoirien lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. La rencontre était présidée par Alassane Ouattara, le chef de l'État. Le Conseil a entre autres adopté une communication relative aux conclusions de la 9e édition de la revue sectorielle 2022 des projets du contrat de désendettement et de développement qui s'est déroulé du 13 au 16 mars dernier à Abidjan. Sur les détails de ce dossier, écoutez les explications du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly.
Cette revue relève, au 31 décembre 2022, 1 213,69 milliards de francs CFA décaissés pour l'exécution des projets C2D sur 1 341,46 milliards de francs remboursés, soit 90,87%. En 2022, spécifiquement, 101,79 milliards ont été décaissés contre 187,43 milliards de francs en 2021, dû à la phase de clôture des projets du premier et du deuxième C2D, l'instruction du troisième C2D. Toutefois, des projets de grande envergure ont été livrés. Il s'agit entre autres des cours d'appel de Daloa et de Korogo, du pont au Fouet-Boigny réhabilité, du centre de formation continue de l'INFJ à Abidjan, de 43 collèges de proximité, des lycées professionnels de Daoukro et de Yopougon. En outre, au titre du troisième C2D, pour un montant de 751 milliards de francs CFA, 238,90 milliards ont été engagés. L'année 2023 devrait marquer la fin de la mise en œuvre des projets des deux premiers C2D et la livraison de plusieurs ouvrages structurants dans les secteurs de l'assainissement, de la santé et de l'éducation.
C'était Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien. Il est par ailleurs le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. On passe aux élections locales à quelques mois des scrutins municipaux et régionaux prévus le samedi 2 septembre prochain. Le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan a invité la jeunesse à œuvrer pour garantir un environnement électoral apaisé. On écoute Dr Flamouké César au micro de Marcel Bounet.
Au moment où nous sommes à quelques mois des élections locales, municipales et régionales, l'appel donc que je voudrais lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est de faire en sorte de ne pas se laisser conduire par les entrepreneurs politiques, d'éviter tout ce qui va rentrer dans le sens de la fragilité en termes de fragilité à la construction de la nation ivoirienne. Éviter la violence électorale, rester courtois, comprendre que la compétition électorale fait partie du jeu démocratique et montrer qu'on est devenu mature et que les questions électorales ne peuvent pas être l'occasion d'instaurer ou bien de faire installer dans une région de la violence et tout ce que cela comporte. Pour ne pas que cette zone qui fait frontière également avec une zone dans laquelle le terrorisme est très très vivant, de ne pas donner l'occasion à ceux qui attendent les situations de désordre pour prospérer. Que la région du Poro soit une région où règne la paix et les différents fils de cette région qui vont s'affronter aux élections, que cela reste seulement une compétition électorale et que l'enjeu doit être tout simplement la paix de cette région et par ricochet la paix de la Côte d'Ivoire.
Docteur Flamouké César, directeur du CERPA, le Centre de Recherche Politique d'Abidjan. Réactivé en 2016 par décret présidentiel, l'Office du Service Civique National apparaît aujourd'hui comme un dispositif important dans la réussite du plan Marshall évoqué par le chef de l'État ivoirien dans son récent discours sur l'état de la nation. Et la direction du Service National des Jeunes est l'une des trois directions opérationnelles de l'OSCN qui a pour vocation principale le renforcement du comportement civique et citoyen de la jeunesse ivoirienne, ce que souligne ici son premier responsable, Ouattara Katolonia, tout en relevant les objectifs du programme jeunesse du gouvernement ivoirien de 2023 à 2025.
Le Service national des jeunes a pour vocation le renforcement du comportement civique et citoyen de notre jeunesse en vue de faire en sorte qu'ils soient des acteurs du développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Le constat est que ces dernières années, nous avons constaté une montée de l'incivisme au niveau de notre jeunesse, ce qui fait suite aux différentes crises que nous avons connues, et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a estimé nécessaire de faire en sorte qu'à travers le programme du service civique en Côte d'Ivoire et particulièrement le service national des jeunes, nos jeunes soient renforcés en termes de comportement civique et citoyen pour dire qu'ils ne sont pas des tableaux noirs. Il y a de bonnes choses à leur niveau.
Et à ce jour, combien de jeunes ont pu donc bénéficier de ces séances de renforcement de capacités en matière de civisme?
Il faut dire que c'est depuis 2021 que nous avons démarré la mise en œuvre du service national des jeunes. Et à ce jour, c'est environ 2000 jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme du service national des jeunes. Et pour cette année, pour ce qui concerne le parcours citoyen, c'est 2000 jeunes élèves qui sont ciblés. Pour le campus, c'est 1000 jeunes qui sont ciblés, et ces activités s'inscrivent dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui vise à terme la formation de 25 000 jeunes pour un bien-être comportemental.
Ouattara Katolonian, directeur du service national des jeunes à l'Office du service civique national, il était interrogé par Aoussi Potin. Protection des droits du travailleur, l'État ivoirien a ratifié plusieurs conventions, dont celle collective interprofessionnelle de juillet 1977 et récemment la Convention de l'Organisation internationale du travail portant sur le droit à un cadre sain et sûr pour le travailleur. Tout cela dans le but de mieux encadrer le secteur du travail. C'est ce qu'a fait savoir Bintou Koulibaly, la directrice de cabinet adjointe du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Hier, elle était l'invitée de la tribune d'échange hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale dénommé Tout savoir sûr. Linda Bali a suivi cette rencontre avec la presse.
En dépit des instruments juridiques pour bien définir le cadre du travail et protéger les droits des employeurs et travailleurs, l'État a mis en œuvre un dispositif institutionnel important, selon Bintou Koulibaly, directrice de cabinet adjointe du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.
Eh bien, l'État a mis en place un important dispositif institutionnel qui implique plusieurs structures, telles que l'inspection du travail. C'est l'organe dédié au suivi de l'application et de la réglementation du travail. Donc, lorsqu'un travailleur estime qu'il est lésé dans ses droits, le reflet ce qu'il doit avoir, c'est de saisir le service d'inspection du travail du lieu d'exécution de son contrat de travail. Nous avons les services de contrôle de la CNPS, les services de santé et de sécurité au travail et les tribunaux de travail. Il y a aussi des organes de dialogue social qui apportent une forte contribution à la protection des droits des travailleurs.
Avant d'ajouter que...
En matière de santé et sécurité au travail, nous avons ratifié plusieurs conventions et l'année dernière seulement, au cours de la conférence internationale du travail, il a été décidé que le droit du travailleur à un environnement environnement sûr et salubre, c'est-à-dire la prise en compte des questions de santé et sécurité au travail, devienne un droit fondamental du travail. Et on a indiqué les conventions qu'il fallait ratifier pour être à jour. Et la Côte d'Ivoire avait déjà ratifié les deux conventions concernées. C'est pour dire que notre pays s'emploie à ratifier les textes essentiels pour pouvoir permettre à nos travailleurs de vivre décemment.
Annonçant l'ouverture prochaine de 3 antennes de santé et sécurité au travail à l'intérieur du pays, Bintou Koulibaly a assuré que le gouvernement s'emploie à relever les défis qui subsistent en matière de protection des droits des travailleurs.
Rappelons à toutes fins utiles que selon l'article 2 du Code du travail, un travailleur est une personne physique qui, moyennant une rémunération, met son activité professionnelle sous la direction d'une autre personne physique ou morale qui est l'employeur. Le ministère des Transports a procédé aujourd'hui au lancement de la 4e édition de la Semaine nationale de sécurité routière à Abidjan. La particularité de cette édition est qu'elle coïncide avec le début de la grande saison des pluies, d'où le renforcement des moyens de sensibilisation annoncé par Étienne Kouakou, conseiller technique du ministre. C'était au point de presse qu'il a animé ce mercredi. Junior Carbien pour en savoir un peu plus.
La 4e édition de la Semaine nationale de sécurité routière se tient du 3 au 10 mai 2023. Et l'information a été donnée par Étienne Kouakou, conseiller technique du ministre des Transports en charge des actions de la sécurité routière, au point de presse de lancement.
Pendant cette période, des postes de sensibilisation seront tenus dans les principales villes du pays et sur les axes accidentogènes identifiés, notamment les axes Abidjan à Boisson-Noé, Abidjan à Bangourou, Abidjan à Yamoussoukro-Wangoulo, et Yamoussoukro Boiflé d'Aloa.
Les actions de sensibilisation et de répression seront axées sur les infractions récurrentes constatées lors des éditions précédentes.
Il s'agit notamment de l'excès de vitesse, de l'usage des téléphones en situation de conduite, du défaut d'éclairage du véhicule, du non-port de la ceinture de sécurité, de la conduite en état d'ivresse, de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie des véhicules automobiles dans certaines localités. Évidemment, des pneus qui sont quelquefois défectueux.
La particularité de cette édition est qu'elle intervient au moment où débute la grande saison des pluies. Étienne Kouakou.
Aussi, outre les points d'intérêt que je viens d'énumérer, un accent sera mis sur les dispositions particulières à observer lors de la conduite par temps des pluies. Ça va concerner le dispositif d'éclairage, les essuie-glaces, les pneumatiques, la vitesse à adapter et évidemment les distances de sécurité.
Pour cette 4e édition, à côté des postes de sensibilisation dans les différentes villes, 2 équipes du ministère se déploieront en renfort dans les régions du Sud-Comoué et de l'Indigné-Guablin.
Présent à Yamoussoukro en vue de l'adoption par le Sénat de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est prononcé sur la grève entamée hier par la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire pour Adama Diawara. La FESI n'avait pas besoin de ce débrayage car les différents points de revendication énumérés pouvaient être discutés dans un cadre formel de dialogue.
Les points de revendication de la FESI, il y en a 9. Je signale que parmi les 9 points de revendication, il y en a qui, à la limite, pour moi, n'auraient pas dû être considérés comme des points de revendication. Je prends par exemple le problème de la réhabilitation des universités et des cités universitaires et restaurants universitaires. Bon, ça n'aurait pas dû être l'objet d'une revendication pour la simple raison que c'est le gouvernement lui-même qui a entrepris de réhabiliter les anciennes universités publiques et les anciens cours, c'est-à-dire les anciennes cités universitaires et les anciens restaurants universitaires. Et je peux vous garantir que le chef de l'État m'a même permis d'utiliser un fonds existant pour procéder à ces travaux-là. Et actuellement, le BNET est à pied d'œuvre pour nous sortir une étude technique avant qu'on choisisse l'entreprise qui va procéder aux travaux de réhabilitation. Donc vous voyez que la FESI n'avait pas besoin de mettre ça comme un point de revendication. De la même façon, vous avez d'autres points de revendication. Je prendrai par exemple ce qu'ils appellent le dysfonctionnement dans le processus d'inscription sur la plateforme numérique du ministère. Là également, je pense qu'il suffisait que la FESI et les autres organisations étudiantines viennent dans ce que j'ai mis en place, à savoir le comité de dialogue permanent. Et en ce moment, ces problèmes-là, on les aurait solutionnés ensemble, dans la mesure où en fait il s'agit de cas de réclamation posés par les étudiants sur d'éventuels erreurs sur leur profil. Et en ce moment, les scolarités centrales des universités doivent de façon assez rapide répondre à ces préoccupations, gérer ces réclamations et de telle sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Donc vraiment, la FESI n'avait pas besoin de lancer un mot d'ordre de grève pour cela. Tout cela s'est discuté calmement dans le comité de dialogue permanent et c'est tout.
Vous écoutiez Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il était au micro d'Émile Yaou. Développement économique des pays africains. Dans un récent rapport, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, alerte sur la situation de surendettement ou de risque de surendettement dans laquelle se trouvent en ce moment 21 pays africains, dont 8 déjà surendettés et 13 autres présentant des risques élevés de surendettement. La Côte d'Ivoire, locomotive économique de l'espace UE, est absente de cette vingtaine de pays. Selon ce rapport, à quel moment dit-on qu'un pays est surendetté ou présente des risques élevés de surendettement et quelles sont les conséquences de son économie? La réponse avec Dr. Brou Djandji Emmanuel, c'est un enseignant en économie du développement à l'université Alassane à Ouattara de Boaké.
Quand on parle de surendettement, ça veut dire que la dette est trop excessive. Bien de pays ont contracté des dettes, mais à la mesure du possible, ces pays arrivent à relancer leur économie. Mais lorsqu'on arrive dans une situation de surendettement, ça veut dire que le poids de la dette est tellement lourd, donc insupportable, qu'on est en train d'avoisiner un taux d'endettement qui dépasse largement les 50% rapporté à leur PIB, bien évidemment. Donc il faut franchement s'en alarmer et ce n'est pas réluisant objectivement pour les pays africains.
Alors, quels sont les risques justement pour ces pays-là quand ils sont surendettés?
Les conséquences sont plurielles. Déjà, lorsque vous êtes surendetté, ça va de soi que vos créanciers vous recommandent de venir honorer vos engagements. Et si les créanciers vous demandent de venir honorer les engagements, il faut bien évidemment que vous ayez les moyens et le potentiel requis pour être à la hauteur de ces engagements. Ça, c'est la première réalité. Mais dans une situation d'un État surendetté, on se retrouve dans un cercle hyper vicieux où l'État en question se retrouve toujours dans l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers qui peuvent être des opérateurs bien évidemment internes comme externes. Et finalement, le pays, jusqu'à preuve de contraire, ne peut pas faire preuve de souveraineté aussi bien à la dimension économique, même à la dimension juridictionnelle.
C'était Dr. Brou Djandji Emmanuel, enseignant en économie du développement à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Il était interrogé par Jean-Claude Comé. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, va abriter du 15 au 18 mai 2023 la 7e édition du Congrès africain des comptables. Cet événement qui se tiendra autour du thème « Transformation structurelle et la croissance des économies africaines » est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du lancement de l'ACOA 2023. Et dans ce sens, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Fédération panafricaine des comptables professionnels, a organisé une conférence de presse hier à Cocody. Objectif, susciter une mobilisation des Ivoiriens autour de cet événement qui se tiendra pour la première fois dans un pays francophone d'Afrique subsaharienne. Sur les enjeux de ce congrès, écoutez plutôt les explications de Kone Drissa, le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire.
Nous organisons du 15 au 18 mai 2023 un événement majeur pour la profession. C'est le congrès panafricain des experts comptables qui aura lieu ici à Abidjan et qui va mobiliser plus de 2000 personnes, représentant plus de 65 pays. C'est une grande première pour notre profession, puisque nous allons organiser cet événement qui va regrouper à la fois des pays lusophones, des pays anglophones et des pays francophones. C'est un événement majeur dans la mesure où la Côte d'Ivoire sera le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne hors Maghreb. Donc je crois que c'est un événement extrêmement important. Et nous allons réfléchir pendant 2 jours à la thématique principale qui est la transformation et croissance des économies africaines. Parce que notre objectif, c'est d'avoir des regards croisés, anglophones, francophones et lusophones, sur la meilleure façon de réduire le secteur informel et d'accroître ou de moderniser en tout cas nos différentes économies.
Propos de Kone Drissa, le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Classement mondial de la liberté de la presse en 2023 dans le monde, la Côte d'Ivoire occupe la 54e place sur 180 pays avec un score de 68,98. Information dévoilée par l'ONG Reporters sans frontières à la faveur de la célébration aujourd'hui de la 30e édition. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme, c'est le thème de la manifestation. La cérémonie officielle s'est déroulée ce matin à la Maison de la Télévision ivoirienne. ici à Abidjan, en présence notamment du représentant de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, puis du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Lutte contre les inondations, le gouvernement appelle à l'implication de tous pour l'atteinte de zéro victime en saison des pluies. C'était récemment au plateau lors d'une cérémonie de lancement des activités de pré-saison initiées pour prévenir les inondations et les pertes en vie humaine. L'opération est baptisée Saison des pluies, zéro victime, c'est possible. On fait le point avec vous, Carlos Kouandé.
Initiée par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, cette activité a été l'occasion pour le ministre Boaké Fofana d'inviter les populations encore installées dans les zones à risque à les quitter volontairement.
Face à cette situation et à cette exposition des populations au risque d'inondation et de glissement des terrains, le gouvernement a la responsabilité de protéger les populations. Pour une saison de pluie sans victimes, il faut convaincre nos compatriotes installés dans les zones à risque de partir avant les grandes pluies prévues en juin, juillet et août.
Présent à cette activité, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a exprimé la pleine adhésion des maires à cette opération dans Haut-Poulain-Claude.
L'activité préventive de ce jour se déroule avec la pleine adhésion des maires qui ont décidé de planifier eux-mêmes des actions préventives. Mais au-delà de l'implication des maires, nous rappelons à tous que chacun a un rôle à jouer. C'est ensemble que nous devons agir pour arrêter le chaos.
C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui représentait le chef du gouvernement à ce lancement. Il a souligné que pour le Premier ministre, cette activité vise trois grands objectifs. Général Vagondo Diomandé.
Il s'agit de préserver des vies. Il s'agit aussi de garantir la sécurité. Et enfin, nous sommes dans une phase de sensibilisation.
À noter que cette année, une saison des pluies plus importante que l'an dernier est annoncée par les services de la météo.
Présidentielle du 4 juin prochain en Sierra Leone, le principal adversaire annoncé du président sortant a vu ces derniers jours l'horizon se dégager pour sa candidature sur laquelle un procès pour corruption présumée faisait planer un doute. Le procès de Samora Camara a été ajourné en fin de semaine passée au 14 juillet prochain. Donc après le scrutin présidentiel, il a officiellement enregistré sa candidature lundi auprès de la commission électorale. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui à l'AFP le porte-parole de cette dernière, Albert Massakoua, cité par l'agence France Presse. Ensuite, au Ghana, les activités minières clandestines très répandues détruisent les forêts de ce pays ouest africain riche en or. Sur les 16 régions, 7 ont été touchées par des activités minières illégales. C'est ce qu'a affirmé le directeur de la commission forestière. En outre, 34 des 288 réserves ont été affectées selon John Aloté et la surface totale des zones détruites est estimée à 4 726 hectares. Alerte donnée hier par l'agence gouvernementale en charge de la forêt lors d'une conférence de presse à Accra. Enfin, le seul candidat américain en lice a été élu président de la Banque mondiale, annonce faite aujourd'hui par l'institution financière internationale dans un communiqué à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration. Âgé de 63 ans, Ajay Banga a dit vouloir donner la priorité au financement de la lutte contre le réchauffement climatique et à la réforme de la Banque mondiale, nous apprend l'AFP. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, le rappel de l'essentiel. Plus de 1 000 milliards de francs CFA ont été décaissés pour l'exécution des projets C2D, entendez contrat de désendettement et de développement, durant ces deux dernières années. C'est ce qui ressort entre autres du Conseil des ministres de ce mercredi, qui s'est aussi penché sur d'autres mesures. Dès demain matin, à partir de 7h, les informations reprendront leurs droits avec les journaux, le flash et la revue de presse. Excellente soirée à toutes et à tous, à l'écoute des programmes de Radio de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.
Oui, bon, dis-moi. Bon, et moi, c'est bilan, bon, 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 bon